La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors on était en train d'évoquer la création de cette aide en face, Ève, pour justement former le premier couple de Adam et Ève. Donc, avant cette création, il convenait pour le Seigneur de creuser dans le cœur d'Adam justement le désir de l'autre, la possibilité de se dire que la vie serait peut-être mieux à deux que tout seul. Et donc pour ça, il imagine le Très-Haut de faire défiler devant Adam tous les animaux de la création pour qu'il puisse Adam les nommer, qu'il s'impose aussi à eux comme leur suzerain et qu'ils prennent conjointement conscience du fait qu'il n'est pas un animal, qu'il n'est pas non plus un reptile, un oiseau, mais qu'il est bien seul dans son espèce, à savoir un homme. Et que sa solitude, elle est ontique, elle est propre à son être d'homme. Et que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que l'homme est seul face au seul. Et que, j'allais dire, sa solitude, elle dit quelque chose de sa ressemblance à Dieu.
Bien sûr.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en tirer une petite réflexion pour les couples, c'est que la solitude de chacun dans le couple est une réalité inaliénable. Et que, j'allais dire, il faut parfois même se méfier des faux semblants fusionnels qui pourraient être conçus comme la panacée du lien amoureux. Pas du tout.
Oui,
c'est la rencontre de deux solitudes et qui subsistent à l'intérieur du couple.
Exactement. Et aujourd'hui, au contraire, on pense que quand on n'est plus tout feu et tout flamme, en réalité...
On ne s'aime plus.
On ne s'aime plus.
Et que c'est la fin du couple. Non, non, non.
Non, non. En fait, ça n'est que le début.
Parce que c'est ce qu'on évoquait par rapport au fait de la séparation. Il y a une séparation qui passe aussi par le fait d'une crise ou d'un temps de silence. Mais justement parce que c'est consubstantiel
du couple. Évidemment, toutefois, Adam, au premier regard, il a quand même compris que chacun ayant sa chacune,
qu'il était le seul, tout seul.
Oui, mais il en ressent de la tristesse. Alors Dieu voit qu'il est prêt. Il est prêt à accueillir Ève. Par ce manque qu'il ressent, il lui fait une place dans son cœur déjà. Dieu donc va faire tomber sur lui une torpeur divine et il va inciser la chair là juste au niveau du cœur pour prélever une côte, un os, la côte qui protège le cœur justement, et à partir de quoi il va façonner. En fait, en hébreu, il va bâtir, baït, la femme, c'est-à-dire celle que l'homme va appeler Isha dans sa joie. Et ils vont être tous les deux ainsi, Adam, qui est de la même nature, en somme, l'homme ensemble.
Alors, on pourrait se poser une question, pourquoi Dieu ne façonne pas la femme à partir de l'argile comme il a fait pour Adam, pour en faire, j'allais dire, la glaiseuse qui serait assortie au glaiseux. Mais pourquoi il doit prendre un os, une côte, c'est-à-dire procéder à partir de la chair de l'homme, si ce n'est pour affirmer leur parfaite unité et leur égale dignité?
Mais oui, bien sûr, c'est ça l'idée. La tradition juive, d'ailleurs, raconte que le Très-Haut a pris soin de coiffer lui-même Ève, son chef-d'œuvre, il faut le dire, pour qu'elle plût davantage encore à Adam. Et il ne fut pas déçu, parce qu'au réveil, Adam est enthousiaste. « Cette fois-ci, déclare-t-il, c'est l'os de mes os, de mes os du moins, et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme Isha, car elle fut tirée de l'homme, Ish, celle-ci. » On voit, tu vois, on entend la joie d'Adam devant la découverte d'Ève. Alors, je voudrais juste te dire une petite chose. Et là, il faut que tu t'accroches un petit peu. Parce qu'il y a un jeu de mots entre Ish et Isha qui n'est pas perceptible
en français
avec homme et femme. Il n'y a rien de commun. Et pourtant,
en hébreu, c'est le même mot, en fait.
Oui, féminisé. C'est ça. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Ish s'écrit avec trois lettres. Et la première, c'est une lettre, j'allais dire, qui est l'initiale du nom de Dieu, c'est-à-dire elle est le principe masculin. Et puis, au milieu, on a Aleph et Shin, qui formeront un autre mot, j'en parlerai plus tard. Alors, pour sa part, Isha
qui veut dire la femme,
va comporter aussi deux lettres, Mais à la fin, elle va comporter une autre lettre qui est le He, qui est la marque du féminin en hébreu et qui se trouve, elle aussi, redoublée à l'intérieur du nom de Dieu. Ce qui nous donne la chose suivante. Comme quand l'homme et la femme s'unissent, qu'ils forment le couple premier, bien sûr, ils se réunissent à ce moment-là, le Yud et le He, c'est-à-dire le Yah, la présence de Yahvé. Tu sais, quand on chante Alléluia, vive Dieu. Eh bien, c'est ça qui est le cœur de leur relation. Et c'est très différent à partir du moment où on a écarté le Yud et le He, parce qu'alors là, on reste juste avec deux autres lettres qui sont le feu.
Alors, on reprend le texte. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Qu'est-ce à dire, Jocelyne, sinon qu'au sein même du nom ineffable se manifeste la présence conjointe du principe masculin, symbolisé par les deux lettres Yud et Vav, et du principe féminin, représenté par le redoublement du He. Parité parfaite dans la complémentarité, on pourrait dire. Mm-hmm. Par ailleurs, alors que Dieu se donne à voir quand Ish et Isha sont unis selon le plan divin, quand ils s'en éloignent, aussitôt s'évanouissent les deux lettres propres du nom de Dieu pour ne laisser que la lettre Aleph et Shin qui forment le mot Esh, à savoir le mot feu en français, la passion qui dévore et réduit tout en cendres.
Oui, oui. Et avant de poursuivre, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la formule « homme et femme, il les créa ». En hébreu, il est écrit « mâle et femelle »,« zakar venekba ». Sans doute le traducteur s'est-il un peu offusqué à propos de la trivialité, j'allais dire apparente, des termes hein, « mâle et femelle » qui semble ravaler l'homme et la femme au rang des animaux. C'est au contraire très 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 pertinent. C'est une clé. En inscrivant la différence sexuelle homme, mâle et femelle au cœur même de l'image de Dieu, la Bible la sanctuarise. C'est-à-dire que le couple, selon le projet divin, est par nature, par essence, mâle et femelle. En effet, la différence sexuelle est fondatrice. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui donne un futur au couple. C'est elle qui est garante de ce fait, de la différence de toutes les autres, contrairement au discours propagé par l'idéologie du gender, hein, qu'on cherche d'ailleurs à inculquer dès le plus jeune âge, sous couvert de l'égalité filles et garçons, et du droit à la différence. Mais c'est un contresens. En ce sens, deux hommes ou deux femmes forment des pairs et non des couples, ce qui est une réalité. Je veux dire, c'est comme ça. Parce qu'ils ne comportent pas en leur sein justement la différence sexuelle. Même si l'on a introduit la confusion sémantique dans l'expression « être en couple », la réalité, j'allais dire, résiste à l'idéologie, laquelle se caractérise d'ailleurs toujours par une perversion du langage, toujours déconnectée de la réalité.
Alors cependant, si le mariage est une institution naturelle voulue par Dieu, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair, il se trouve néanmoins débilité par les conséquences du péché originel. À ce titre, questionné par les pharisiens sur le recours possible au divorce conformément à la loi de Moïse en cas de mésentente conjugale, Jésus cite ce verset tout en l'assortissant d'un commentaire. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer.
Alors, en réponse et dans le but de le mettre en contradiction avec la Torah, ses interlocuteurs vont brandir l'argument de la répudiation formalisée par un acte de divorce. Pour Moïse, il s'agissait de garantir des droits à la femme chassée de son foyer pour n'importe quel motif. Dans le pire des cas, elle risquait même de se voir accusée d'adultère et donc exposée à la lapidation par son tartuffe de mari désireux de s'en débarrasser définitivement au noble prétexte de respecter la loi.
Alors Jésus rétorque, c'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, c'est-à-dire dès Béréchit, la Genèse, il n'en fut pas ainsi. Et il ajoute, dès l'origine, le Créateur les fit homme et femme, en insistant sur ce lien, sur cette unité indissoluble du couple dans le mariage.
Voilà, c'est pourquoi quitter son père et sa mère est la condition, j'allais dire, nécessaire pour s'attacher à sa femme ou à son mari. Et beaucoup d'unions se fracassent sur cet écueil, car Il ne s'agit pas simplement de s'installer à distance de ses parents, mais même à l'autre bout du monde, ou de ses beaux-parents, encore mieux. Malgré nous, et à notre insu, en fait, nous emportons avec nous, dans nos cartons, passagers clandestins d'autant plus influents que nous en sommes moins conscients, la présence du père, de la mère. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont forgé ce que nous sommes pendant toutes les années d'enfance et d'adolescence. Et au sein du nouveau foyer, sans crier gare, eh bien, ils vont rentrer en concurrence.
Avec le conjoint.
Exactement. Et ils vont s'asseoir, on sera plus deux, on sera six, papa, maman, et beau papa et bonne maman. Les goûts et les couleurs, les habitudes, les tabous même, fournissent autant de points d'accord que de discorde à ce moment-là dans le couple. Qu'advienne une dispute et tu vas entendre « Oh, arrête, tu me rappelles ton père !» ou alors « Oh, je t'en supplie, on dirait ta mère !» qui fusent et qui sont tout de même
rarement élogieux.
Eh oui, ça c'est sûr. Hein. Tous ces regards en arrière risquent de transformer les amoureux les plus épris en statues de sel qui ne parviennent plus à se comprendre et renoncent peu à peu à se parler en vérité pour éviter la discorde.
Jocelyne, tu évoques d'ailleurs une statue de sel, mais c'est une statue biblique que
oui,
tu évoques.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, quand le feu du ciel va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, les anges vont faire sortir Lot en hâte et sa femme qui répond au nom d'Édith, selon la tradition juive, sort, mais en fait, elle n'a pas envie de quitter Sodome et Gomorrhe, parce que c'est une ville formidable, tellement riche, elle a une vie géniale à Sodome et Gomorrhe. Donc, sur le chemin, alors que son mari lui dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, le soufre et le feu du ciel vont tomber sur la ville », elle se retourne. Et elle nous dit la tradition, elle va être transformée en statue de sel. C'est-à-dire qu'elle va se figer et elle va devenir absolument incapable d'aimer désormais.
Voilà l'enjeu de quitter son père et sa femme, son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quitter les projections, quitter les évidences du passé pour mettre en premier l'autre dans notre vie. On continue notre réflexion. Donc, c'est ce qui arriva donc au couple primordial, Adam et Ève. Dans la mesure où Adam et Ève forment le premier couple de la Bible, leur relation, eh bien, c'est comme si elle avait la valeur d'exemple et qu'on va pouvoir, d'ailleurs, à partir de ce premier couple, évoquer un peu quelques réflexions. Premièrement, parce qu'ils sont ensemble, Adam et Ève, l'image et la ressemblance de Dieu, eh bien, leur mission en tant que couple est donc de porter eschatologique. Eschatologique, ça veut dire que ça nous parle de la réalité des fins dernières de l'homme et du monde. La relation du couple doit donc être orientée en fonction de cette dimension surnaturelle.
Oui, oui.
D'ailleurs, c'est juste, hein. Ce mystère est de grande portée, nous dit Saint Paul aux Éphésiens. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Tout couple a en germe dit quelque chose de la relation entre le Christ et son Église. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les époux donnent à voir Dieu dans le fait qu'ils sont couple. Autant dire qu'ils ne sont plus seulement deux, mais trois, avec la présence de l'Esprit-Saint, qu'ils sont comme une sorte de trinité conjugale.
Oui, c'est ça. L'autre aspect que je voudrais souligner, c'est que parce qu'ils ont reçu ensemble la bénédiction et la mission d'être fécond et de dominer sur la création, eh bien, l'homme et la femme ont été établis dans un rapport d'égalité parfaite, dans la complémentarité et le respect de leur génie propre. Mâle et femelle, il les créa. Par suite, l'identité sexuelle de la personne humaine est inaliénable. Elle est son ADN et elle n'est pas à confondre avec l'orientation sexuelle qui, elle, fluctue à tous les vents du désir selon la liberté de chacun parce qu'elle dépend de ce choix libre que chacun peut faire. Un autre aspect sur lequel je voudrais insister, parce que Dieu a créé la femme à partir de la côte d'Adam située contre son cœur pour qu'il l'aime, et non à partir d'un os de la tête pour qu'il la domine, ou parce qu'elle est son aide en face, sa compagne de vie, et dans une relation d'amour entre les deux, pour qu'ils se voient, qu'ils s'entendent, qu'ils se parlent. En fait, le couple est un mystère de communion.
Mais le couple initial est bien vite soumis à la première épreuve d'obéissance, c'est-à-dire d'écouter, d'écoute de la parole de Dieu dans toute sa vérité et d'acceptation de l'amour dans la totale soumission aux exigences de la volonté créatrice. En effet, au vu du récit du chapitre 3 de la Genèse, il apparaît que quelqu'un guette le bonheur de l'homme et de sa femme et qu'il le jalouse, ce bonheur, au point de vouloir le détruire.
Oui. Et ce quelqu'un qui est jaloux, c'est sa nature, hein, la jalousie, et bien sûr, c'est le serpent. La Bible nous dit « le plus rusé de tous les animaux que Yahvé Dieu avait fait ». En hébreu, j'attire ton attention parce que le serpent, Nahash, n'est pas rusé, il est nu.
Le plus nu de tous les animaux.
Exactement. Aroum en hébreu. Le détail n'est pas un détail. En fait, ce jaloux, c'est l'esprit malin symbolisé par le serpent, comme l'affirme Saint Jean-Paul II. En effet, la sagesse nous avait prévenu, le livre de la sagesse, c'est par l'envie, la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Nous allons voir de quelle mort il s'agit. En s'adressant à Ève, le serpent commence par citer la parole de Dieu, en introduisant cependant un détail de son cru infime. On pourrait ne pas le remarquer. Il dit « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Alors, aussitôt, évidemment, Ève dresse l'oreille, elle le reprend, car Dieu a dit exactement le contraire à Adam. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. » À une exception près, il est vrai, qu'elle s'empresse de divulguer à son interlocuteur, apparemment assez mal informé, du moins c'est ce qu'elle croit. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. »
Or Dieu, Jocelyne, oui, n'a pas dit qu'il ne fallait pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment se fait-il que la femme, en voulant corriger le serpent, introduise à son tour une erreur? La raison en est qu'Ève, elle n'était pas là quand Adam a reçu ce commandement, puisque c'était antérieur à sa création. Ne serait-ce que l'homme, par un excès de précaution, a peut-être transmis une information un peu erronée, en ajoutant le fait que il faut non seulement ne pas manger, mais surtout, pire encore, ne pas toucher de l'arbre défendu. Et c'est une erreur fatale de faire du zèle, parce que la parole de Dieu est parfaite et il ne faut rien y ajouter, ni rien en retrancher jusqu'au moindre iota. Dieu avait dit « Vous ne mangerez pas de l'arbre, mais non pas, vous n'y toucherez pas. »
Alors là, à nouveau, la tradition juive rapporte que, à l'origine, en lisant ce qui va suivre, le serpent avait bras et jambes, c'était une sorte de gros lézard, on pourrait dire, et qu'il en fut privé après la chute originelle pour le punir d'avoir suborné Ève dans le dessein de faire tomber Adam. Entraînant la femme au centre du jardin, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il l'avait bousculé grâce à ses bras, comme ça, il l'avait poussé, en sorte que, perdant l'équilibre, elle s'était rattrapée à l'arbre fameux qu'il ne fallait pas toucher. Voilà qu'elle l'avait, au contraire, touché, sans pour autant mourir. Et c'est ce que le serpent va lui faire valoir. Elle pouvait donc en déduire légitimement que on l'avait prise pour une idiote, voire pour une blonde, et que tout ça, c'était des bobards. Au contraire, vu de près, l'arbre lui apparaissait bon à manger, séduisant à voir, et surtout désirable pour acquérir le discernement, afin de cesser d'être à la remorque des affabulateurs de tout agabit.
Oui, c'est comme dire que dans cette affaire, seul le serpent semble dire vrai. Ce constat sème le doute dans son esprit à Ève. Comment devenir intelligente? Comment dire vrai et discerner? Alors le serpent se hâte d'en tirer un avantage en poursuivant. Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ce que le tentateur propose à Ève, c'est la conquête de son autonomie morale, pouvoir juger par elle-même de ce qui est bien ou mal grâce à ses yeux ouverts. Et ça, c'est la naissance d'un concept qui est très, très, très en vogue, qui s'appelle le wokisme aujourd'hui. Woke en anglais, ça signifie avoir les yeux ouverts.
Exactement.
Et donc, pour le serpent, la vérité n'existe pas en tant que telle. Elle n'est qu'une question de point de vue, de lunettes que tu portes et d'un regard qui relègue le réel au rang de chimère, de possible. Tel est le mensonge initial proféré par ce père du mensonge pour Ève.
Et en quoi ce mensonge est-il si pernicieux, Étienne ? Eh bien, tout d'abord parce que le serpent s'inscrit en faux contre la parole de Dieu. Pas du tout, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu a dit vous mourrez, hein ? Mais lui, il dit non, vous ne mourrez pas. Cette dénégation véhémente qui fait de Dieu un menteur, évidemment, le disqualifie aux yeux d'Ève. Puis, il motive son réquisitoire, qui est très bien argumenté, en suggérant que c'est par jalousie que Dieu cherche à maintenir l'homme dans un état subalterne de dépendance. En conséquence, Dieu est mauvais, car il ne veut pas leur bonheur. Mais si Dieu n'est pas bon, ben il n'est pas tout court, en effet. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir, l'esprit humain peut concevoir, un Dieu sadique qui déteste sa création et cherche à lui nuire au point de la détruire ? Sans sa bienveillance, mais comment subsisterait-elle ? Comment le monde autour de nous subsisterait si Dieu nous détestait et voulait nous détruire ? La ruse du serpent va donc consister à jeter le discrédit sur Dieu. Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a réussi au-delà même de toutes ses espérances. Dieu est devenu persona non grata, récusé en tant que créateur, agissant dans l'histoire.
Ainsi s'achève notre émission sur la création de la femme et cette opposition frontale avec le serpent. Vous pouvez retrouver cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot qui s'intitule « Les couples phares de la Bible » paru aux éditions Salvator. La chanson qui va être diffusée en cette fin d'émission sera réécoutée pour ceux qui le souhaitent sur ma chaîne YouTube, Étienne Tarnot, et puis sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques, des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission qui est biblepasapa@gmail.com. Biblepasapa tout accroché @gmail.com. Bonne semaine à toi, Jocelyne.
Bonne semaine, Étienne, et surtout bonne semaine à tous.
Vous mes apôtres, à vous les onze, vous avez vécu avec moi. Quand je suis mort, vous étiez affligés, mon corps supplicié, vous avez pleuré. Pourquoi n'avoir pas voulu croire ceux qui m'ont vu ressuscité? Marie-Madeleine, ceux d'Emmaüs, ils m'avaient vu et vous l'ont annoncé. Vous mes amis, vos cœurs sont durs, vous êtes des hommes de peu de foi. Pourtant c'est vous que j'ai choisi pour annoncer mon évangile. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le à toute la création, annoncez-le au monde entier. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le jusqu'à la fin des temps, annoncez-le au monde entier. Vous mes apôtres, à vous les onze, je vous envoie au monde entier. Ceux qui croiront seront sauvés, les autres demeurent aveuglés. Voici les signes que vous ferez, les démons seront expulsés. En langue nouvelle vous parlerez, les serpents par vos mains tués. Si vous buvez un poison mortel, il ne vous fera aucun mal. Aux malades, imposez les mains, et ceux qui souffrent s'en trouveront bien. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le à toute la création, annoncez-le au monde entier. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le jusqu'à la fin des temps, annoncez-le au monde entier. À la droite du Père, je vais siéger, mais près de vous, je veux rester pour annoncer mon évangile. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le à toute la création, annoncez-le au monde entier. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le jusqu'à la fin des temps. Annoncez-le au monde entier. Proclamez-le à toute la création, annoncez-le au monde entier. Vous le voyez, je suis ressuscité. Je vous le dis, je suis ressuscité. Proclamez-le jusqu'à la fin des temps, annoncez-le au monde entier.